16h17. Lorsque le commandant Petar Velika avait pris ses fonctions, on lui avait fait miroiter le soleil toute l'année, la vue sur mer, les petits escrocs et les grands mafieux pour l'occuper, et, cerise sur le gâteau, une vaste pièce de 40 mètres carrés comme bureau. À peine 3 ans plus tard, par un mystère dont seule l'administration française a le secret, le ministère lui avait demandé de partager son bureau avec son adjoint. Raréfier les effectifs de police tout en augmentant la promiscuité dans les commissariats. Voilà un exploit dont seule l'action conjuguée et coordonnée des ministères des Finances et de l'Intérieur pouvait se vanter. Depuis un an maintenant, Petar et Julot se faisaient face, chacun penché sur son bureau, comme dans n'importe quel open space du service courrier ou comptabilité d'une entreprise. Un truc inventé pour les femmes, pensait Petar. Une aubaine pour qu'elles puissent papoter toute la journée. Les hommes, eux, avaient besoin d'intimité. Plus encore depuis ce matin. Le commandant Velika avait étalé sur sa table des dizaines de photos de filles plus ou moins dénudées. Plutôt plus que moins. Plus ou moins maquillées. Trop souvent jeunes. Pas toujours jolies. Parfois émouvantes. Toujours excitantes. Le commandant sortait les photos d'un grand classeur noir. Le catalogue complet de toutes les prostituées de la ville. De l'occasionnelle à la professionnelle, des clandestines nigérianes aux escortes de luxe indépendantes. Ce fichier représentait des heures de planque, de recherche sur Internet. Une base de données que Petar actualisait avec une inaltérable conscience professionnelle. « Vous avancez, patron ?» lança Julot du bout de la pièce, caché derrière l'écran de son ordinateur. Le commandant Velika croisa le regard moqueur de son adjoint. Le lieutenant Flores ne semblait guère convaincu par sa méthode artisanale d'identification de la fameuse fille au foulard du Red Corner. « Fous-toi de moi », pensa Petar. « Est-ce que je sais quelles images tu fais défiler sur ton écran ?» À côté des clichés de prostituées, le commandant avait agrandi l'image saisie par la caméra de surveillance, zoomée sur les yeux, la bouche et le menton. Petar se savait physionomiste et si la fille qui avait entraîné François Valioni au Red Corner était fichée, il la reconnaîtrait. Petar leva enfin la tête pour répondre à son adjoint.
« Je progresse, mon grand. Je te préviens dès que je trouve les tarifs de ton amoureuse. »
Julot pencha sa tête ronde en dehors du cadre de son écran.
« Arrêtez avec ça, patron. En plus, comment pouvez-vous être certain que cette fille est une prostituée ?»
« Tu vois que j'ai raison. Tu la défends déjà. »
« En tous les cas, pendant que vous vous rincez l'œil, moi j'ai avancé. »«
Dis donc, petit, » fit Petar en tournant une nouvelle page du classeur noir. « Te moque pas du livre sacré. Tu sais que plusieurs générations de flics se sont soulagées sur ce vieux grimoire. L'ami fidèle des soirs de garde, des nuits de veille, des semaines de planque sans revoir leur femme. Un peu de respect, gamin. »
Le lieutenant Flores se retint d'exploser de rire. Parviendrait-il à atteindre un jour le détachement de son supérieur? Ce relâchement, comme disent les sportifs de haut niveau. Cette capacité à agir sans se poser de questions, à balayer l'horreur des enquêtes par l'autodérision.
Alors, Bill Gates, qu'est-ce que t'as trouvé?
J'ai épluché l'ordinateur de François Valioni. Un jeu d'enfant. Il n'utilisait pas de pseudo lorsqu'il se connectait sur les réseaux sociaux. Le plus intéressant, c'est la messagerie privée de son compte Facebook. Il a été contacté il y a 6 mois par une fille, une soi-disant doctorante en anthropologie, travaillant sur les flux migratoires. Les premiers échanges sont tout ce qu'il y a de plus sérieux, mais après leur première rencontre, la thésarde semble avoir trouvé Valioni à son goût. Elle devient soudain beaucoup moins sage et elle multiplie les sous-entendus et les émoticônes explicites.
Les quoi ?
Des smileys, des petits dessins si vous voulez, des sourires, des clins d'œil, des cœurs qui battent, des lèvres rouges qui envoient des baisers.
Petar soupira. Apparemment, ça ne le faisait pas fantasmer.
Donc, c'est cette fille qui a contacté Valioni ?
Oui, et ce qui est curieux, c'est qu'elle semble en savoir beaucoup sur lui. Comme si elle l'avait espionné. Plus que cela même. Comme si elle était informée sur ses goûts, sa famille. Son boulot, son passé. Quand on relit l'ensemble de l'historique de leurs échanges, il est évident que Valioni s'est fait piéger. Il n'a pas été choisi au hasard. la fille au foulard est venue le chercher, l'a méticuleusement ciblé, selon un timing de séduction minutieusement préparé.
Le commandant Velika laissa traîner le regard sur une grande blonde appuyée à un réverbère, vêtue d'un épais manteau de fourrure qui ne recouvrait qu'à moitié ses cuisses nues. Difficile de deviner la saison où avait été pris le cliché.
« Ça me semble un peu trop facile, mon garçon. Si le plan de cette fille était aussi bien mijoté, pourquoi laisser autant de traces derrière elle pour que le premier geek venu puisse l'identifier ?»«
Elle n'est pas étudiante de thèse, patron. Tout est bidon. Le titre de son doctorat, ses recherches, son inscription à l'université. »«
Tu as son nom, au moins ?»«
Son pseudo seulement. » »«
C'est-à-dire, rien. » »« Vas-y, balance toujours. »
Bambi 13.
Pétard avait fermé sa Bible noire après avoir consciencieusement rangé chaque cliché de chaque fille. D'après ce qu'avait déniché Julot, il n'avait pas affaire à une escorte embauchée pour entraîner François Valioni dans un hôtel isolé, dans le cadre d'un règlement de compte rapide et sordide. Pétard en avait pourtant vu passer quelques dizaines depuis qu'il était en poste. Le commandant Velika attrapa une chaise et vint s'asseoir à côté de son adjoint, face à l'écran.
Pas de photos sur le profil de Bambi 13, je suppose.
Si, des dizaines, mais aucune sur laquelle on puisse la reconnaître. Sur sa page Facebook, elle ne poste que des photos de dos, de pieds, de bras, de cheveux, comme si elle cherchait soigneusement à dissimuler son visage. C'est fréquent, remarquez, sur Facebook, pour les femmes, surtout les plus mignonnes qui ne veulent pas être emmerdées.
Mouais. Sauf qu'en l'occurrence, c'était elle la dragueuse.
Les images devaient faire partie du plan pour ferrer Valioni. D'après ce qu'on devine, Bambi 13 est jeune, grande, fine, une peau brune de métisse. Si c'est la fille au foulard filmée par la caméra de surveillance, elle ne se baigne pas spécialement en burkini. La moitié des photos sont prises sur des plages où elle pose en maillot, voire allongée sur le ventre sans le haut.
Pétard observait avec attention les clichés qui défilaient sur le profil.
Valioni était vraiment aussi con. Un peu gros comme piège, non? La fille canon qui le drague, qui a l'âge de sa fille, qui ne montre jamais son visage mais qui se balade à poil dans des coins paradisiaques aux quatre points cardinaux de la planète.
Pas forcément, argumenta Julot. Ça collait avec son personnage de chercheuse sur l'émigration internationale. Apparemment, les photos ont été prises en Sicile, en Turquie, aux Canaries, en République dominicaine, à Mayotte, à peu près dans tous les lieux chauds où des clandestins débarquent. Je vais fouiller, patron. Peut-être qu'elle a laissé passer un détail qui permettra de l'identifier, mais... Mais il y a autre chose de plus étrange encore dans le profil Facebook de Valioni.
Au grand regret de Pétard, Julot quitta la page de Bambi 13 pour ouvrir celle de François Valioni. Une photo de famille du cadre de Vogelzug, posant devant les calanques de Cassis, s'afficha. François serrait dans ses bras sa femme et ses deux enfants.
« Putain !» commenta Pétard. « Avec ces foutus réseaux sociaux, on finira par confier les enquêtes de police à des moteurs de recherche. On nous bassine avec les Robocop, mais les flics du futur sont de simples logiciels qui interrogeront les suspects par messagerie, les interpelleront par tweet, et les coffreront simplement en leur fermant leur foutue connexion. Plus besoin de prison.
Regardez, patron,
fit Julot qui ne semblait même pas avoir prêté attention à la tirade du commandant.
Sur sa page Facebook, François Valioni a posté cette photo hier à 16h11.
Pétard se pencha. Il reconnut immédiatement les dizaines de barques de pêche bleues, les chevaux de corde les amarrant au petit port carré, la casbah blanche et le vieux fort en arrière-plan.
Et Saouira ? Nom de Dieu ! Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? C'était moins de 8 heures avant d'entrer dans le Red Corner pour se faire saigner.
Vous avez gagné un camembert bleu, patron ! Et Saouira ! Aucun doute là-dessus. J'ai relevé les distances entre Essaouira et les villes marocaines les plus proches, disposant d'un aéroport international. Casablanca, Marrakech, Rabat. Entre 3 et 4 heures, auxquelles il faut ajouter 2 heures de vol pour Marseille. Sachant que François Valioni a quitté les bureaux de Vogelzug à 10 heures du matin. C'est la dernière fois que des témoins l'ont vu vivant. Ça laisse 14 heures d'amplitude avant qu'il ne passe devant la caméra de surveillance du Red Corner, à minuit. Ça le fait. C'est serré pour un aller-retour jusqu'à Essaouira, mais ça le fait.
Pétard continuait de scruter les dizaines de barques bleues échouées dans le port à sec.
Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas ? C'était peut-être pour le boulot, patron. Un rendez-vous d'affaires avec billets d'avion en classe business payé par la boîte ? Il suffira d'interroger Vogelzug. Ça me semble faire beaucoup de route pour une escapade en amoureux.
À voir, Roméo, à voir. Si on colle le visage de la caméra de surveillance sur le corps de rêve de cette pseudo-étudiante, ça lui fait beaucoup d'atouts pour convaincre ce globe trotteur de Valioni de l'emmener au bout du monde.
Julo Flores ne releva pas. Visiblement, le commandant Velika n'avait pas l'air pressé de creuser la piste Vogelzug.
Aux Maldives, par exemple, ajouta-t-il. Là d'où viennent ces foutus coquillages retrouvés dans sa poche.
Aucune trace dans son agenda d'un voyage là-bas dans les 10 derniers mois. Mais vous m'excuserez, patron, je ne peux pas être sur tous les fronts. Je m'occuperai plus tard des fruits de mer exotiques. J'ai mis Ryan sur le coup, sans oublier cette histoire de prise de sang.
Pétard Velika se leva. Il fixa le cadre devant lui, une affiche floue, tenant autant de l'impressionnisme que de la photographie, représentant des centaines de flamants roses barbotant dans l'étang de Vacarès, en pleine Camargue, à quelques kilomètres de l'étang de Berre.
La prise de sang. C'est vrai, mon petit génie. Tu avais aussi une théorie là-dessus.
Ouais, mais je me suis planté.
Tu avais imaginé quoi ? Souviens-toi, on a écarté la piste des vampires.
Plus simple que ça, patron. J'avais pensé à un test.
Un test de quoi ?
Un test de paternité.
Le commandant marqua un silence, le temps d'évaluer la différence d'âge entre François Valioni et sa supposée meurtrière.
Julo continua. Je pensais qu'en connaissant le sang de 2 individus, on pouvait en déduire un lien de filiation. Mais après quelques recherches sur Internet, j'ai compris que ça ne fonctionne pas comme ça. Seuls les tests ADN le permettent.
Creuse quand même, fit Pétard sans quitter les flamants roses des yeux. Ça me plaît bien, l'idée que François Valioni ait semé des gosses dans chaque camp de réfugiés de la planète avant de se ranger à Aubagne.
Dans le couloir, Ryan et Mehdi passèrent. Quelques cris provenaient de l'accueil. En arabe, d'après ce que Julo en comprenait. C'était fréquent. Les flics bilingues étaient 2 fois plus occupés que les autres.
Au fait, patron, les 2 clandestins que les collègues ont attrapés, ils ont parlé ?
Pétard semblait presque s'endormir devant le tableau aux flamants de l'étang, sur une jambe. Il sortit brusquement de sa torpeur.
Muets, comme des carpes rouges. Heureusement, comme pour les copines du livre noir, les consulats possèdent des fichiers, des doubles des passeports ou des demandes de visa. Si tu veux savoir, nos 2 amis s'appellent Bola et Jimon. Bola, c'est le calme, et Jimon, le balafré excité. Ils sont béninois, originaire d'Abomey, au nord de Cotonou, d'après ce qu'en disent les collègues de l'ambassade.
Et on va les renvoyer là-bas ?
Ouais, c'est le principe, petit. Ils mettent 2 semaines, 2 mois à arriver, en déployant une ruse et une énergie qu'on ne peut pas imaginer, pour qu'une fois sur place, on les renvoie par le premier charter venu. 5 heures de vol, et ils sont de retour à la maison. C'est pour ça que même si c'est usant, répétitif, une bagarre sans fin, les migrants ne gagneront jamais contre les pays barricadés. Parce que même s'ils s'entassent par dizaines dans des camions, par centaines dans des bateaux, on met 1000 fois moins de temps à les renvoyer chez eux qu'ils ne mettent à venir. Comme des fourmis qui reviennent sans cesse dans le placard à biscuits. Un coup d'éponge, une fois de temps en temps, et on les oublie. Attention, je te parle des migrants, là, pas des réfugiés.
C'est quoi la différence, patron ?
Pétard observa son adjoint, amusé. Julo devinait qu'il en avait souvent discuté à la terrasse des cafés et que son argumentaire était bien rodé.
Rien de plus simple, gamin. Les réfugiés sont les gentils, ils fuient la guerre dans leur pays, on doit avoir pitié d'eux, on a le devoir moral de les accueillir. La France est une terre d'asile. Les migrants, eux, ce sont les méchants. Ils veulent nous envahir, Ils sont seulement pauvres. Mais des pauvres. On en a déjà assez chez nous, tu comprends?
Donc, on laisse entrer les réfugiés, mais pas les migrants.
Tut, tut, tut. Pas si vite, mon garçon. Le devoir de la France est d'accueillir les réfugiés. Mais la consigne est de ne pas les laisser entrer. Du moins, ceux qui n'ont pas de papier. Mais comme c'est assez rare que les dictateurs tamponnent leur visa ou qu'ils trouvent une photocopieuse en état de marche dans les villes bombardées, ils doivent risquer leur peau pour passer illégalement. Mais une fois qu'ils ont posé un pied chez nous, jackpot, ils sont sauvés.
On ne peut plus les renvoyer chez eux ?
En théorie, mais ça dépend de leur pays. On les renvoie seulement s'ils viennent d'un POS, un pays d'origine sûre, c'est-à-dire qui ne les torturera pas quand ils descendront de l'avion.
Si je comprends bien, on ne renverra aucun Soudanais tant qu'il y a la guerre là-bas, mais on renverra tous les Béninois.
T'as tout compris. Les pauvres doivent avoir la chance de vivre dans un pays en guerre pour pouvoir rester chez nous. On accueille les réfugiés politiques et on vire les migrants économiques. Et ne viens pas me demander pourquoi on a le devoir d'accueillir un gars qui crève de peur chez lui et pas un gars qui crève de faim.
Le lieutenant Julot Flores se demanda jusqu'à quel point son commandant était sincère, concerné ou simplement désabusé. Il demeura un instant pensif et ne trouva le réflexe de poser sa question qu'au moment où Petar Velika avait déjà ouvert la porte de leur bureau.
« Et les bracelets, patron ? Les bracelets bleus qu'il portait au poignet ?»
Son supérieur était déjà sorti, sans répondre. Il n'avait pas entendu. Du moins, c'est ce que Julot Flores supposa.